Chapitre 6. Mon oncle avait fait construire sur les bords d'une jolie rivière qui baignait ses plantations un petit pavillon de branchages entouré d'un massif d'arbres épais où Marie venait tous les jours respirer la douceur de ces brises de mer qui, pendant les mois les plus brûlants de l'année, soufflent régulièrement à Saint-Domingue depuis le matin jusqu'au soir et dont la fraîcheur augmente ou diminue avec la chaleur même du jour. J'avais soin d'orner moi-même tous les matins cette retraite des plus belles fleurs que je pouvais cueillir. Un jour, Marie accourt à moi, tout effrayée. Elle était entrée comme de coutume dans son cabinet de verdure, et là, elle avait vu, avec une surprise mêlée de terreur, toutes les fleurs dont je l'avais tapissée le matin, arrachées et foulées aux pieds. Un bouquet de soucis sauvages fraîchement cueillis était déposé à la place où elle avait coutume de s'asseoir. Elle n'était pas encore revenue de sa stupeur qu'elle avait entendu les sons d'une guitare sortir du milieu du taillis même qui environnait le pavillon. Puis une voix, qui n'était pas la mienne, avait commencé à chanter, doucement, une chanson qui lui avait paru espagnole, et dans laquelle son trouble, et sans doute aussi quelque pudeur de vierge, elle avait empêché de comprendre autre chose que son nom fréquemment répété. Alors elle avait eu recours à une fuite précipitée, à laquelle, heureusement, il n'avait point été mis d'obstacle. Ce récit me transporta d'indignation et de jalousie. Mes premières conjectures s'arrêtèrent sur le sang mêlé libre avec qui j'avais eu récemment une altercation. Mais dans la perplexité où j'étais jetée, je résolus de ne rien faire légèrement. Je rassurai la pauvre Marie, et je me promis de veiller sans relâche sur elle jusqu'au moment prochain où il me serait permis de la protéger encore de plus près. Présumant bien que l'audacieux, dont l'insolence avait si fort épouvanté Marie, ne se bornerait pas à cette première tentative pour lui faire connaître ce que je devinais être son amour. Je me mis, dès le soir même, en embuscade autour du corps de bâtiment où reposait ma fiancée, après que tout le monde fut endormi dans la plantation. Caché dans l'épaisseur des hautes cannes à sucre, armé de mon poignard, j'attendais. Je n'attendis pas en vain. Vers le milieu de la nuit, un prélude mélancolique et grave, s'élevant dans le silence à quelques pas de moi, éveilla brusquement mon attention. Ce bruit fut pour moi comme une secousse. C'était une guitare. C'était sous la fenêtre même de Marie. Furieux, brandissant mon poignard, je m'élançai vers le point d'où ces sons partaient, brisant sous mes pas les tiges cassantes des cannes à sucre. Tout à coup, je me sentis saisir et renverser avec une force qui me parut prodigieuse. Mon poignard me fut violemment arraché et je le vis briller au-dessus de ma tête. En même temps, deux yeux ardents étincelaient dans l'ombre tout près des miens, et une double rangée de dents blanches, que j'entrevoyais dans les ténèbres, s'ouvrait pour laisser passer ces mots, prononcés avec l'accent de la rage. « Tetango, Tetango, je te tiens, je te tiens !» Plus étonné encore qu'effrayé, je me débattais vainement contre mon formidable adversaire, et déjà la pointe de l'acier se faisait jour à travers mes vêtements, lorsque Marie, que la guitare et ce tumulte de pas et de paroles avaient réveillé, parut subitement à sa fenêtre. Elle reconnut ma voix, vit briller un poignard et poussa un cri d'angoisse et de terreur. Ce cri déchirant paralysa en quelque sorte la main de mon antagoniste victorieux. Il s'arrêta, comme pétrifié par un enchantement, promena encore quelques instants avec indécision le poignard sur ma poitrine, puis, le jetant tout à coup, « Non, » dit-il cette fois en français, « non, elle pleurerait trop. » En achevant ces paroles bizarres, il disparut dans les touffes de roseaux. Et avant que je me fusse relevé, meurtri par cette lutte inégale et singulière, nul bruit, nul vestige ne restait de sa présence et de son passage. Il me serait fort difficile de dire ce qui se passa en moi au moment où je revins de ma première stupeur entre les bras de ma douce Marie, à laquelle j'étais si étrangement conservée par celui-là même qui paraissait prétendre à me la disputer. J'étais plus que jamais indignée contre ce rival inattendu et honteux de lui devoir la vie. « Au fond, me disait mon amour-propre, c'est à Marie que je la dois, puisque c'est le son de sa voix qui a fait seul tomber le poignard. » Cependant, je ne pouvais me dissimuler qu'il y avait bien quelque générosité dans le sentiment qui avait décidé mon rival inconnu à m'épargner. Mais ce rival, quel était-il donc? Je me confondais en soupçons, qui tous se détruisaient les uns les autres. Ce ne pouvait être le planteur sans mêlée que ma jalousie s'était d'abord désignée. Il était loin d'avoir cette force extraordinaire, et d'ailleurs ce n'était point sa voix. L'individu avec qui j'avais lutté m'avait paru nu jusqu'à la ceinture. Les esclaves seuls dans la colonie étaient ainsi à demi vêtus. Mais ce ne pouvait être un esclave. Des sentiments comme celui qui lui avait fait jeter le poignard ne me semblaient pas pouvoir appartenir à un esclave. Et d'ailleurs, tout en moi se refusait à la révoltante supposition d'avoir un esclave pour rival. Quel était-il donc? Je résolus d'attendre et d'épier. Chapitre 7. Marie avait éveillé la vieille nourrice qui lui tenait lieu de la mère qu'elle avait perdue au berceau. Je passai le reste de la nuit auprès d'elle, et dès que le jour fut venu, nous informâmes mon oncle de ces inexplicables événements. Sa surprise en fut extrême, mais son orgueil, comme le mien, ne s'arrêta pas à l'idée que l'amoureux inconnu de sa fille pouvait être un esclave. La nourrice reçut ordre de ne plus quitter Marie. Et comme les séances de l'Assemblée provinciale, les soins que donnait aux principaux colons l'attitude de plus en plus menaçante des affaires coloniales et les travaux des plantations ne laissaient à mon oncle aucun loisir, il m'autorisa à accompagner sa fille dans toutes ses promenades jusqu'au jour de mon mariage, qui était fixé au 22 août. En même temps, présumant que le nouveau soupirant n'avait pu venir que du dehors, il ordonna que l'enceinte de ses domaines fût désormais gardée nuit et jour, plus sévèrement que jamais. Ces précautions prises, de concert avec mon oncle, je voulus tenter une épreuve. J'allai au pavillon de la rivière, et, réparant le désordre de la veille, je lui rendis la parure de fleurs dont j'avais coutume de l'embellir pour Marie. Quand l'heure où elle s'y retirait habituellement fut venue, je m'armai de ma carabine, chargée à balles, et je proposai à ma cousine de l'accompagner à son pavillon. La vieille nourrice nous suivit. Marie, à qui je n'avais point dit que j'avais fait disparaître les traces qui l'avaient effrayée la veille, entra la première dans le cabinet de feuillage. « Vois, Léopold, me dit-elle, mon berceau est bien dans le même état de désordre où je l'ai laissé hier. Voilà bien ton ouvrage gâté, tes fleurs arrachées, flétries. Ce qui m'étonne, ajouta-t-elle en prenant un bouquet de soucis sauvages déposé sur le banc de gazon, ce qui m'étonne, c'est que ce vilain bouquet ne se soit pas fané depuis hier. Vois, cher ami, il a l'air d'être tout fraîchement cueilli. » J'étais immobile d'étonnement et de colère. En effet, mon ouvrage du matin même était déjà détruit, et ces tristes fleurs, dont la fraîcheur étonnait ma pauvre Marie, avaient repris insolemment la place des roses que j'avais semées. « Calme-toi, me dit Marie qui vit mon agitation. Calme-toi, c'est une chose passée, cet insolent n'y reviendra sans doute plus. Mettons tout cela sous nos pieds, comme cet odieux bouquet. » Je me gardais bien de la détromper, de peur de l'alarmer. Et sans lui dire que celui qui devait, selon elle, n'y plus revenir, était déjà revenu, je la laissai fouler les soucis aux pieds, pleine d'une innocente indignation. Puis, espérant que l'heure était venue de connaître mon mystérieux rival, je la fis asseoir en silence entre sa nourrice et moi. À peine avions-nous pris place que Marie mit son doigt sur ma bouche. Quelques sons affaiblis par le vent et par le bruissement de l'eau venaient de frapper son oreille. J'écoutais. C'était le même prélude triste et lent qui, la nuit précédente, avait éveillé ma fureur. Je voulus m'élancer de mon siège. Un geste de Marie me retint. « Léopold, me dit-elle à voix basse, contiens-toi, il va peut-être chanter, et sans doute ce qu'il dira nous apprendra qui il est. » En effet, une voix dont l'harmonie avait quelque chose de mâle et de plaintif à la fois sortit un moment après du fond du bois et mêla aux notes graves de la guitare une romance espagnole dont chaque parole retentit assez profondément dans mon oreille pour que ma mémoire puisse encore aujourd'hui en retrouver presque toutes les expressions. Pourquoi me fuis-tu, Maria ? On a jugé inutile de reproduire ici en entier les paroles du chant espagnol. Por qué me huyes, Maria ? Etc. Pourquoi me fuis-tu, jeune fille ? Pourquoi cette terreur qui glace ton âme quand tu m'entends ? Je suis en effet bien formidable. Je ne sais qu'aimer, souffrir et chanter. Lorsqu'à travers les tiges élancées des cocotiers de la rivière, je vois glisser ta forme légère et pure, un éblouissement trouble ma vue. Oh, Maria, et je crois voir passer un esprit. Et si j'entends, oh, Maria, les accents enchantés qui s'échappent de ta bouche comme une mélodie, il me semble que mon cœur vient palpiter dans mon oreille et mêle un bourdonnement plaintif à ta voix harmonieuse. Hélas, ta voix est plus douce pour moi que le chant même des jeunes oiseaux qui battent de l'aile dans le ciel et qui viennent du côté de ma patrie où j'étais roi, de ma patrie où j'étais libre. Libre, et toi, jeune fille, j'oublierai tout cela pour toi. J'oublierai tout, royaume, famille, devoir, vengeance, oui, jusqu'à la vengeance. Quoique le moment soit bientôt venu de cueillir ce fruit amer et délicieux qui mûrit si tard. La voix avait chanté les stances précédentes avec des pauses fréquentes et douloureuses, mais en achevant ces derniers mots, elle avait pris un accent terrible. Oh, Maria, tu ressembles au beau palmier, svelte et doucement balancé sur sa tige, et tu te mires dans l'œil de ton jeune amant, comme le palmier dans l'eau transparente de la fontaine. Mais ne le sais-tu pas, il y a quelquefois, au fond du désert, un ouragan jaloux du bonheur de la fontaine aimée. Il accourt. Et l'air et le sable se mêlent sous le vol de ses lourdes ailes. Il enveloppe l'arbre et la source d'un tourbillon de feu. Et la fontaine se dessèche, et le palmier sent se crisper sous la laine de mort le cercle vert de ses feuilles qui avaient la majesté d'une couronne et la grâce d'une chevelure. Tremble, ô blanche fille d'Hispaniola! Nos lecteurs n'ignorent pas sans doute que c'est le premier nom donné à Saint-Domingue par Christophe Colomb, à l'époque de la découverte, en décembre 1492. Tremble, que tout ne soit bientôt plus autour de toi qu'un ouragan et qu'un désert. Alors, tu regretteras l'amour qui eût pu te conduire vers moi, comme le joyeux Kata, l'oiseau de salut, guide à travers les sables d'Afrique le voyageur à la citerne. Et pourquoi repousserais-tu mon amour, Maria ? Je suis roi, et mon front s'élève au-dessus de tous les fronts humains. Tu es blanche, et je suis noire, mais le jour a besoin de s'unir à la nuit pour enfanter l'aurore et le couchant, qui sont plus beaux que lui. Chapitre 8. Un long soupir, prolongé sur les cordes frémissantes de la guitare, accompagna ces dernières paroles. J'étais hors de moi. Roi, noir, esclave, mille idées incohérentes, éveillées par l'inexplicable chant que je venais d'entendre, tourbillonnaient dans mon cerveau. Un violent besoin d'en finir avec l'être inconnu qui osait ainsi associer le nom de Maria à des chants d'amour et de menaces s'empara de moi. je saisis convulsivement ma carabine et me précipitai hors du pavillon. Marie, effrayée, tendait encore les bras pour me retenir, que déjà je m'étais enfoncé dans le taillis du côté d'où la voix était venue. Je fouillai le bois dans tous les sens. Je plongeai le canon de mon mousqueton dans l'épaisseur de toutes les broussailles. Je fis le tour de tous les gros arbres. Je remuai toutes les hautes herbes. Rien, rien et toujours rien. Cette recherche inutile, jointe à d'inutiles réflexions sur la romance que je venais d'entendre, mêla de la confusion à ma colère. Cet insolent rival échapperait donc toujours à mon bras comme à mon esprit. Je ne pourrais donc ni le deviner ni le rencontrer. En ce moment, un bruit de sonnette vint me distraire de ma rêverie. Je me retournai. Le nain à bis bras était à côté de moi. « Bonjour, maître, » me dit-il, et il s'inclina avec respect. Mais son louche regard, obliquement relevé vers moi, paraissait remarquer avec une expression indéfinissable de malice et de triomphe l'anxiété peinte sur mon front. « Parle !» lui criai-je brusquement. « As-tu vu quelqu'un dans ce bois ?»«
Nul autre que vous, seigneur Millot, » me répondit-il avec tranquillité.
« Est-ce que tu n'as pas entendu une voix ? » repris-je. L'esclave resta un moment comme cherchant ce qu'il pouvait me répondre. Je bouillais.
« Vite ! » lui dis-je. « Réponds vite, malheureux ! As-tu entendu ici une voix ?»
Il fixa hardiment sur mes yeux ses deux yeux ronds comme ceux d'un chat tigre.
« Que redécher usted ? »
Que voulez-vous dire ?
« Par une voix, maître. Il y a des voix partout et pour tout. Il y a la voix des oiseaux, il y a la voix de l'eau, il y a la voix du vent dans les feuilles. »
Je l'interrompis en le secouant rudement.
« Misérable bouffon, cesse de me prendre pour ton jouet ou je te fais écouter de près la voix qui sort d'un canon de carabine. Réponds en quatre mots. As-tu entendu dans ce bois un homme qui chantait un air espagnol ?»«
Oui, seigneur. » me répliqua-t-il sans paraître ému.
« Et des paroles sur l'air... Tenez, maître, je vais vous conter la chose. Je me promenais sur la lisière de ce bosquet en écoutant ce que les grelots d'argent de ma gorra,
le petit griffe espagnol désigne par ce mot son bonnet,
me disait à l'oreille. Tout à coup, le vent est venu joindre à ce concert quelques mots d'une langue que vous appelez l'espagnol. La première que j'ai bégayée lorsque mon âge se comptait par mois et non par année, et que ma mère me suspendait sur son dos à des bandelettes de laine rouge et jaune. J'aime cette langue. Elle me rappelle le temps où je n'étais que petit, et pas encore nain, qu'un enfant et pas encore un fou. Je me suis rapproché de la voix, et j'ai entendu la fin de la chanson.
« Eh bien, est-ce là tout ? » repris-je impatienté.
« Oui, maître Hermoso, mais si vous voulez, je vous dirai ce que c'est que l'homme qui chantait. »
Je crus que j'allais embrasser le pauvre bouffon.
« Oh, parle » m'écriai-je. « Parle, voici ma bourse, habit bras, et 10 bourses meilleures sont à toi si tu me dis quel est cet homme. »
Il prit la bourse, l'ouvrit et sourit.
« 10 bolsas meilleures que celle-ci, mais demonio. « Cela ferait une pleine fanega de bons écus à l'image d'El Rey Luis Quinz, autant qu'il en aurait fallu pour ensemencer le chant du magicien Grenadin Altornino, lequel savait l'art d'y faire pousser de buenos doblones. Mais ne vous fâchez pas, jeune maître, je viens au fait. Rappelez-vous, seigneur, les derniers mots de la chanson. « Tu es blanche et je suis noire. » Mais le jour a besoin de s'unir à la nuit pour enfanter l'aurore et le couchant, qui sont plus beaux que lui.
Or, si cette chanson dit vrai, le griffe à bis bras, votre humble esclave, né d'une négresse et d'un blanc, est plus beau que vous.
Si, señorito de amor, je suis le produit de l'union du jour et de la nuit. Je suis l'aurore ou le couchant dont parle la chanson espagnole. Et vous n'êtes que le jour. Donc, je suis plus beau que vous. Si usted quiere, plus beau qu'un blanc.
Le nain entremêlait cette divagation bizarre de longs éclats de rire. Je l'interrompis encore. « Où donc en veux-tu venir avec tes extravagances? Tout cela me dira-t-il ce que c'est que l'homme qui chantait dans ce bois ?»« Précisément, maître, » repartit le bouffon avec un regard malicieux. « Il est évident que El Hombre, qui a pu chanter de telles extravagances, comme vous les appelez, ne peut être et n'est qu'un fou pareil à moi. J'ai gagné la diez bolsas. » Ma main se levait pour châtier l'insolente plaisanterie de l'esclave émancipé, lorsqu'un cri affreux retentit tout à coup dans le bosquet du côté du pavillon de la rivière. C'était la voix de Marie. Je m'élance, je cours, je vole, m'interrogeant d'avance avec terreur sur le nouveau malheur que je pouvais avoir à redouter. J'arrive, haletant, au cabinet de verdure. Un spectacle effrayant m'y attendait. Un crocodile monstrueux, dont le corps était à demi caché sous les roseaux et les mangles de la rivière, avait passé sa tête énorme à travers l'une des arcades de verdure qui soutenait le toit du pavillon. Sa gueule, entr'ouverte et hideuse, menaçait un jeune noir, d'une stature colossale, qui, d'un bras, soutenait la jeune fille épouvantée, de l'autre, plongeait hardiment le fer d'une bisaigue entre les mâchoires acérées du monstre. Le crocodile luttait furieusement contre cette main audacieuse et puissante qui le tenait en respect. Au moment où je me présentais devant le seuil du cabinet, Marie poussa un cri de joie, s'arracha des bras du nègre et vint tomber dans les miens en s'écriant « Je suis sauvée !» À ce moment, à cette parole de Marie, le nègre se retourne brusquement, croise ses bras sur sa poitrine gonflée et, attachant sur ma fiancée un regard douloureux, demeure immobile, sans paraître s'apercevoir que le crocodile est là, près de lui, qu'il s'est débarrassé de la bisaigue et qu'il va le dévorer. C'en était fait du courageux noir, si, déposant rapidement Marie sur les genoux de sa nourrice, toujours assise sur un banc et plus morte que vive, je ne me fusse approché du monstre, et je n'eusse déchargé à bout portant dans sa gueule la charge de ma carabine. L'animal, foudroyé, ouvrit et ferma encore deux ou trois fois sa gueule sanglante et ses yeux éteints, mais ce n'était plus qu'un mouvement convulsif. Et tout à coup, il se renversa à grand bruit sur le dos, en roidissant ses deux pattes larges et écaillées. Il était mort. Le nègre, que je venais de sauver si heureusement, détourna la tête et vit les derniers tressaillements du monstre. Alors il fixa ses yeux sur la terre et, les relevant lentement vers Marie, qui était revenue achever de se rassurer sur mon cœur, il me dit, et l'accent de sa voix exprimait plus que le désespoir, il me dit « Por qué le has matado ?»« Pourquoi l'as-tu tué ?» Puis il s'éloigna à grands pas sans attendre ma réponse et rentra dans le bosquet, où il disparut. Chapitre 9. Cette scène terrible, ce dénouement singulier, les émotions de tout genre qui avaient précédé, accompagné et suivi mes vaines recherches dans le bois, jetèrent un chaos dans ma tête. Marie était encore toute pensive de sa terreur, et il s'écoula un temps assez long avant que nous puissions nous communiquer nos pensées incohérentes, autrement que par des regards et des serrements de main. Enfin, je rompis le silence. « Viens, » dis-je à Marie, « sortons d'ici, ce lieu a quelque chose de funeste. » Elle se leva avec empressement, comme si elle n'eût attendu que ma permission, appuya son bras sur le mien, et nous sortîmes. Je lui demandai alors comment lui était advenu le secours miraculeux de ce noir au moment du danger horrible qu'elle venait de courir, et si elle savait qui était cette esclave, car le grossier caleçon qui voilait à peine sa nudité montrait assez qu'il appartenait à la dernière classe des habitants de l'île. « Cet homme, me dit Marie, et sans doute un des nègres de mon père, qui était à travailler aux environs de la rivière, à l'instant où l'apparition du crocodile m'a fait pousser le cri qui t'a averti de mon péril. Tout ce que je puis te dire, c'est qu'au moment même, il s'est élancé hors du bois pour voler à mon secours.
De quel côté est-il venu ?
Lui demandai-je. Du côté opposé à celui d'où partait la voix l'instant d'auparavant, et par lequel tu venais de pénétrer dans le bosquet. Cet incident dérangea le rapprochement que mon esprit n'avait pu s'empêcher de faire entre les mots espagnols que m'avait adressés le nègre en se retirant et la romance qu'avait chantée dans la même langue mon rival inconnu. D'autres rapports, d'ailleurs, s'étaient déjà présentés à moi. Ce nègre, d'une taille presque gigantesque, d'une force prodigieuse, pouvait bien être le rude adversaire contre lequel j'avais lutté la nuit précédente. La circonstance de la nudité devenait d'ailleurs un indice frappant. Le chanteur du bosquet avait dit « Je suis noir ». Similitude de plus. Il s'était déclaré roi, et celui-ci n'était qu'un esclave. Mais je me rappelais, non sans étonnement, l'air de rudesse et de majesté empreint sur son visage, au milieu des signes caractéristiques de la race africaine. L'éclat de ses yeux, la blancheur de ses dents sur le noir éclatant de sa peau, la largeur de son front, surprenante surtout chez un nègre, le gonflement dédaigneux qui donnait à l'épaisseur de ses lèvres et de ses narines quelque chose de si fier et de si puissant, la noblesse de son port, la beauté de ses formes, qui, quoique maigri et dégradé par la fatigue d'un travail journalier, avait encore un développement, pour ainsi dire, herculéen. Je me représentais dans son ensemble l'aspect imposant de cet esclave, et je me disais qu'il aurait bien pu convenir à un roi. Alors, calculant une foule d'autres incidents, mes conjectures s'arrêtaient avec un frémissement de colère sur ce nègre insolent. Je voulais le faire rechercher et châtier. Et puis, toutes mes indécisions me revenaient. En réalité, où était le fondement de tant de soupçons? L'île de Saint-Domingue était en grande partie possédée par l'Espagne. Il résultait de là que beaucoup de nègres, soit qu'ils eussent primitivement appartenu à des colons de Santo Domingo, soit qu'ils y fussent nés, mêlaient la langue espagnole à leur jargon. Et parce que cet esclave m'avait adressé quelques mots en espagnol, était-ce une raison pour le supposer auteur d'une romance en cette langue qui annonçait nécessairement un degré de culture d'esprit, selon mes idées, tout à fait inconnu aux nègres? Quant à ce reproche singulier qu'il m'avait adressé d'avoir tué le crocodile, il annonçait chez l'esclave un dégoût de la vie que sa position expliquait d'elle-même, sans qu'il fût besoin, certes, d'avoir recours à l'hypothèse d'un amour impossible pour la fille de son maître. Sa présence dans le bosquet du pavillon pouvait bien être que fortuite. Sa force et sa taille étaient loin de suffire pour constater son identité avec mon antagoniste nocturne. Était-ce sur d'aussi frêles indices que je pouvais charger d'une accusation terrible devant mon oncle et livrer à la vengeance implacable de son orgueil un pauvre esclave qui avait montré tant de courage pour secourir Marie. Au moment où ses idées se soulevaient contre ma colère, Marie la dissipa entièrement en me disant avec sa douce voix « Mon Léopold, nous devons de la reconnaissance à ce brave nègre. Sans lui, j'étais perdue. Tu serais arrivé trop tard. » Ce peu de mots eut un effet décisif. Il ne changea pas mon intention de faire rechercher l'esclave qui avait sauvé Marie, mais il changea le but de cette recherche. C'était pour une punition, ce fut pour une récompense. Mon oncle apprit de moi qu'il devait la vie de sa fille à l'un de ses esclaves, et me promit sa liberté si je pouvais le retrouver dans la foule de ses infortunés. Chapitre 10. Jusqu'à ce jour, la disposition naturelle de mon esprit m'avait tenu éloigné des plantations où les Noirs travaillaient. Il m'était trop pénible de voir souffrir des êtres que je ne pouvais soulager. Mais, dès le lendemain, mon oncle m'ayant proposé de l'accompagner dans sa ronde de surveillance, j'acceptai avec empressement, espérant rencontrer parmi les travailleurs le sauveur de ma bien-aimée Marie. J'eus lieu de voir, dans cette promenade, combien le regard d'un maître est puissant sur des esclaves, mais en même temps, combien cette puissance s'achète cher. Les nègres, tremblant en présence de mon oncle, redoublaient sur son passage d'efforts et d'activité. Mais qu'il y avait de haine dans cette terreur. Irascible par habitude, mon oncle était prêt à se fâcher de n'en avoir pas sujet, quand son bouffon habit bras, qui le suivait toujours, lui fit remarquer tout à coup un noir qui, accablé de lassitude, s'était endormi sous un bosquet de dattiers. Mon oncle court à ce malheureux, le réveille rudement et lui ordonne de se remettre à l'ouvrage. Le nègre, effrayé, se lève et découvre en se levant un jeune rosier du Bengale sur lequel il s'était couché par mégarde et que mon oncle se plaisait à élever. L'arbuste était perdu. Le maître, déjà irrité de ce qu'il appelait la paresse de l'esclave, devient furieux à cette vue. Hors de lui, il détache de sa ceinture le fouet armé de lanières ferrées qu'il portait dans ses promenades, et lève le bras pour en frapper le nègre tombé à genoux. Le fouet ne retomba pas. Je n'oublierai jamais ce moment. Une main puissante arrêta subitement la main du colon. Un noir, c'était celui-là même que je cherchais, lui cria en français « Punis-moi, car je viens de t'offenser, mais ne fais rien à mon frère qui n'a touché qu'à ton rosier. » Cette intervention inattendue de l'homme à qui je devais le salut de Marie, son regard, son geste, l'accent impérieux de sa voix me frappèrent de stupeur. Mais sa généreuse imprudence, loin de faire rougir mon oncle, n'avait fait que redoubler la rage du maître et la détourner du patient à son défenseur. Mon oncle, exaspéré, se dégagea des bras du grand nègre en l'accablant de menaces et leva de nouveau son fouet pour l'en frapper à son tour. Cette fois, le fouet lui fut arraché de la main. Le noir en brisa le manche garni de clous comme on brise une paille et foula sous ses pieds ce honteux instrument de vengeance. J'étais immobile de surprise, mon oncle de fureur. C'était une chose inouïe pour lui que de voir son autorité ainsi outragée. Ses yeux s'agitaient comme prêts à sortir de leur orbite. Ses lèvres bleues tremblaient. L'esclave le considéra un instant d'un air calme, puis, tout à coup, lui présentant avec dignité une cognée qu'il tenait à la main, « Blanc, » dit-il, « si tu veux me frapper, prends au moins cette hache. » Mon oncle, qui ne se connaissait plus, aurait certainement exaucé son vœu et se précipité sur la hache quand j'intervins à mon tour. Je m'emparai lestement de la cognée et je la jetai dans le puits d'une noria qui était voisine. « Que fais-tu ? » me dit mon oncle avec emportement. « Je vous sauve, lui répondis-je, du malheur de frapper le défenseur de votre fille. C'est à cet esclave que vous devez, Marie. C'est le nègre dont vous m'avez promis la liberté. » Le moment était mal choisi pour invoquer cette promesse. Mes paroles effleurèrent à peine l'esprit ulcéré du colon. « Sa liberté ? » me répliqua-t-il d'un air sombre. « Oui, il a mérité la fin de son esclavage. Sa liberté, nous verrons de quelle nature sera celle que lui donneront les juges de la cour martiale. » Ces paroles sinistres me glacèrent. Marie et moi le suppliâmes inutilement. Le nègre, dont la négligence avait causé cette scène, fut puni de la bastonnade, et l'on plongea son défenseur dans les cachots du fort Galifet, comme coupable d'avoir porté la main sur un blanc. De l'esclave au maître, c'était un crime capital. Chapitre 11. Vous jugez, messieurs, à quel point toutes ces circonstances avaient dû éveiller mon intérêt et ma curiosité. Je pris des renseignements sur le compte du prisonnier. On me révéla des particularités singulières. On m'apprit que ses compagnons semblaient avoir le plus profond respect pour ce jeune nègre. Esclave comme eux, il lui suffisait d'un signe pour s'en faire obéir. Il n'était point né dans les cases, on ne lui connaissait ni père ni mère. Il y avait même peu d'années, disait-on, qu'un vaisseau négrier l'avait jeté à Saint-Domingue. Cette circonstance rendait plus remarquable encore l'empire qu'il exerçait sur tous ses compagnons, sans même en excepter les noirs créoles, qui, vous ne l'ignorez sans doute pas, messieurs, professaient ordinairement le plus profond mépris pour les nègres congos. Expression impropre et trop générale, par laquelle on désignait dans la colonie tous les esclaves amenés d'Afrique. Quoiqu'il parût absorbé dans une noire mélancolie, sa force extraordinaire, jointe à une adresse merveilleuse, en faisait un sujet du plus grand prix pour la culture des plantations. Il tournait plus vite et plus longtemps que ne l'aurait fait le meilleur cheval les roues des norias. Il lui arrivait souvent de faire en un jour l'ouvrage de 10 de ses camarades pour les soustraire au châtiment réservé à la négligence ou à la fatigue. Aussi était-il adoré des esclaves. Mais la vénération qu'ils lui portaient, toute différente de la terreur superstitieuse dont ils environnaient le fou Abi Bras, semblait avoir aussi quelque cause cachée. C'était une espèce de culte. « Ce qu'il y avait d'étrange, reprenait-on, c'était de le voir aussi doux, aussi simple avec ses égaux, qui se faisaient gloire de lui obéir, que fier et hautain vis-à-vis de nos commandeurs. Il est juste de dire que ces esclaves privilégiés, à nos intermédiaires qui liaient en quelque sorte la chaîne de la servitude à celle du despotisme, joignant à la bassesse de leurs conditions l'insolence de leur autorité, trouvaient un malin plaisir à l'accabler de travail et de vexation. Il paraît néanmoins qu'il ne pouvait s'empêcher de respecter le sentiment de fierté qu'il avait porté à outrager mon oncle. Aucun d'eux n'avait jamais osé lui infliger de punition humiliante. S'il lui arrivait de les condamner, 20 nègres se levaient pour les subir à sa place. Et lui, immobile, assistait gravement à leur exécution, comme s'ils n'eussent fait que remplir un devoir. Cet homme bizarre était connu dans les cases sous le nom de Pierrot.